Le temps moderne de 9h05 à midi. Réplique, voix du silence, la mémoire en chantant, grand angle. De 9h05 à midi, les temps modernes.
Réplique, Alain Finkielkraut. Dans son numéro daté du 21 mai 1987, l'hebdomadaire national algérien Algérie Actualité a publié un long dossier intitulé « Sans embâge et sans euphémisme, que veulent les Juifs ?» L'éditorial de cet ensemble volumineux commence en ces termes. Plus de 40 ans après, l'Holocauste fait fureur. Dès qu'un Juif pleure quelque part dans le vaste monde, on accuse l'humanité entière d'être foncièrement antisémite et on convoque coup sur coup l'histoire et les hommes qui l'ont faite. L'Holocauste, c'est la flamme de l'Olympe juive qu'entretient une puissance financière mondiale par médias interposés. Ce n'est pas un hasard si les grands networks, canards et radios sont la propriété exclusive de ces hommes qui attisent dans l'amalgame le scandale et l'histoire. Au Nouvel Observateur et à Europe 1, par exemple, on est d'abord juif avant d'être journaliste. Quand les critères de sélection sont d'abord d'ordre racial, il est entendu que les jérémiades, les coups de gueule et l'orientation relèvent d'abord du parti pris. Les autres articles de ce dossier sont écrits sur le même ton. Le lecteur y apprend notamment que le Congrès juif mondial a monté de toutes pièces une cabale contre Kurt Waldheim pour le punir de sa politique pré-arabe au temps où il était secrétaire général de l'ONU. Que l'URSS est noyée sous une pluie de désinformation venue de l'Occident et tendant à faire croire que les juifs y sont persécutés. Et enfin que si Klaus Barbie a été jugé en France, c'est pour raviver le chantage émotionnel au four crématoire que le mouvement sioniste exerce depuis 40 ans sur le reste du monde. Faut-il conclure de ce dossier que l'antisémitisme s'est déplacé de l'Europe vers les pays arabes? C'est la première question que je voudrais poser à mes invités. Jean Daniel, qui a réagi au dossier d'Algérie Actualité par un éditorial retentissant, paru sous le titre significatif « Pas vous, pas ça » dans le Nouvel Observateur du 28 mai, et Mohamed Harkoun, qui est professeur d'histoire de la pensée islamique à Paris 3. Cette question, je la pose d'abord à Mohamed Harkoun. Croyez-vous donc que l'antisémitisme se soit ainsi transféré depuis la guerre de l'Europe vers le monde arabe? Mohamed Harkoun.
Je ne crois pas du tout qu'il faille poser les choses de cette façon-là. Le problème est beaucoup plus complexe. Et je voudrais d'abord souligner ma gêne à entrer dans un tel débat. En effet, je n'ai pas du tout les compétences du journaliste qui suit ce genre d'événements de très près et qui a nécessairement beaucoup plus d'informations de base et de ces informations qui, justement, n'atteignent pas le grand public parce qu'elles ne sont pas publiées dans la presse. Je suis, comme vous l'avez dit dans votre présentation, un intellectuel, un chercheur, historien de la pensée islamique. Je suis algérien aussi, et donc le fait que ça vienne d'Algérie me touche. Et si j'interviens, si j'ai accepté cette confrontation avec Jean Daniel, c'est parce que je milite, comme vous, Alain Finkielkraut, dans le sens de ce que vous avez appelé dans votre ouvrage récent « La défaite de la pensée ». C'est bien votre ouvrage.
Oui,
je n'ai pas encore lu.
Oui,
j'ai simplement entendu une émission avec Jacques Chancel que vous avez eue à propos de ce livre. Et je dois vous dire que personnellement, de mon côté, dans la perspective de la pensée islamique, je lutte également contre la défaite de la pensée.
Mais Mohamed Harkoun...
Et je placerai le problème que vous voulez soulever dans cet éclairage intellectuel, culturel, beaucoup plus général, qui concerne notre époque, qui concerne également les Juifs, les Arabes, les Japonais, le monde de notre époque, et que l'on peut effectivement caractériser par cette heureuse formule que vous avez eue, la défaite de la pensée. Personnellement, j'ai toujours parlé plutôt du désordre sémantique dans lequel nous vivons. On ne peut pas parler de ces problèmes sans prendre une exacte mesure du désordre sémantique. Comment voulez-vous surnager dans l'échange inqualifiable qui se déroule chaque jour, précisément dans la presse, de gauche ou de droite, justement, ces problèmes sont au-delà de toutes les distinctions habituelles, parce que nous touchons à des fantasmes au sens le plus fort, extrêmement fort, puissant, surtout en ce qui concerne juifs et arabes. Et nous touchons à une histoire coloniale qui est toujours là et qu'il ne faut pas oublier et que l'on a trop vite enterré, justement du côté de la presse, du côté de la pensée française, du côté de tout ce qui peut se dire et se faire en France, il y a énormément de choses, n'est-ce pas, préalables à un échange véritable et en profondeur, au-delà des indignations que l'on peut comprendre, au-delà des colères que l'on peut également comprendre de part et d'autre, parce que nous parlons d'événements douloureux, d'événements tragiques, mais nous n'avons pas la maîtrise intellectuelle de ces choses-là.
Jean-Daniel.
Je dirais à mon ami Mohamed Harkoun, faut-il dire ami d'ailleurs quand on a du sens et s'opposer, mais enfin je le dis, puisque je le pense, et que l'éclairage culturel qu'il donne n'est pas fait pour gêner un journaliste qui essaie de donner une dimension de pensée, une dimension intellectuelle à ses écrits hebdomadaires. Et je préciserai cependant que les médias ne sont jamais, il le sait, qu'un reflet, que c'est toujours un refuge trop confortable que de s'abriter derrière la vulgarisation du fait de la médiatisation, et qu'il n'y aurait pas cette médiatisation, ni même quelquefois cette déformation, si à l'origine il n'y avait pas une réalité épaisse, incontournable, et qui en l'occurrence concerne la question d'Alain Finkielkraut, à laquelle je répondrai plus directement pour ma part, à savoir, est-ce que cet article ne traduit pas une dérive antisémite dans un certain nombre de pays arabes. Je compléterai tout de même sa question en disant, est-ce que l'antisionisme, je dirais presque normal pour des pays arabes, puisqu'ils se conçoivent, je dis bien, c'est pas s'ils le sont, mais ils se conçoivent comme agressés, est-ce qu'il n'y a pas une dérive antisémite de l'antisionisme qui a été suscité depuis l'irruption d'Israël? Première réponse, comme un peu partout dans le monde, l'antisémitisme a préexisté à cette explosion, disons, algérienne. Deuxième observation, cette explosion algérienne n'est possible, curieusement, que grâce à, je dirais, une très relative liberté de presse, qui fait qu'il n'y a plus en ce moment de référence orthodoxe en Algérie, au point que parfois on peut se demander s'il faut regretter ce qu'il faut choisir entre un mauvais usage de la liberté ou l'absence de liberté. Et troisième observation, c'est que ici, en effet, nous avons une explosion où les passions se déchaînent. Il m'est difficile d'accepter qu'on puisse renvoyer dos à dos la véhémence des passions, dans la mesure où il s'agit non pas de parti pris sur l'universel, qui pourrait dans ses applications diverses se traduire par des positions subjectives, mais il s'agit de mise en cause de l'universel. Personnellement, je n'ai jamais laissé ma passion me conduire à mettre en cause l'humanité de l'arabe, l'humanité d'un musulman. Je crois que les deux articles, car il y en a deux, celle d'Algérie Actualité et un autre plus grave qui a paru dans l'organe officiel du parti unique de la République algérienne, appelé Révolution africaine, met en cause l'humanité des juifs, de leurs alliés, et fait un saut dans cette escalade en allant même prendre le parti de cette pensée, si j'ose dire, qu'on appelle aujourd'hui révisionniste, et qui tend non pas à critiquer le comportement des Israéliens, non pas à critiquer le comportement des alliés d'Israël dans différentes communautés, puissantes ou pas, comme il le dit, mais tout simplement, au nom de l'exploitation supposée du sionisme, faire en sorte que l'Holocauste lui-même, c'est-à-dire cette blessure à l'humanité entière, sans partage, que les nazis ont perpétré sur un peuple d'occasion, en l'occurrence le peuple juif, que cette réalité est niée. Alors, dans cette histoire, tout le monde est concerné. Pour ma part, je ne judaïserai pas le débat, de même que j'évite de la personnaliser. Et j'ajoute une chose, et ce sera ma dernière observation pour vous laisser la parole, c'est que c'est un fait que tout est étrange dans cette affaire. Car, premièrement, ce n'est pas un homologue italien ou espagnol. Par exemple, le directeur de Repubblica, mon ami Scalfari, ou le directeur de El País, mon ami Sierran, qui sont mis en cause. C'est un Français. Ce n'est pas n'importe quel Français, et journal français qui est mis en cause. C'est probablement le journal qui a pris le plus fait et cause pour la cause algérienne, arabe et islamique, de tout le paysage français, ou à peu près. Je fais des exceptions, bien évidemment, et je ne prétends pas du tout à la solitude, à l'exclusivité, pardon, mais au monopole dans cette histoire. C'est le directeur français qui est le plus proche. Et parmi les directeurs français le plus proche, ce n'est pas celui de Témoignages Chrétiens, ce n'est pas celui de Libération, pour des homologues qui ont pris à peu près le même combat que celui de l'Observateur, c'est le nôtre, à savoir celui d'un juif. Dans cette gradation, dans cette spécificité, la proximité. Mais pour se dégager de cette proximité, éloigner, séparer le juif des autres, il y a évidemment une volonté là, antisémite, qui ne peut peut-être pas foncièrement, pour répondre alors plus directement à la Finkielkraut, qui ne traduit pas forcément un antisémitisme selon la tradition chrétienne, je prendrai garde de faire de tels rapprochements, mais qui, en l'occurrence, est stratégiquement antisémite.
Mohamed Harkoun,
oui.
Vous voulez répondre à cela ?
Oui, je voudrais répondre qu'il faut essayer de ne pas confondre le combat politique autour de ce vaste phénomène et les oppositions qui peuvent exister ou les incompréhensions qui peuvent exister en ce qui concerne les rapports entre juifs et arabes. Je vois là un livre publié par mon collègue Bernard Lewis intitulé « Sémites et antisémites ».
Oui, j'avais l'intention qu'on en parle,
c'est une pièce du dossier. Je connais ce livre et je connais l'auteur, n'est-ce pas ? Et je m'y réfère là aussi parce que c'est mon domaine et parce que ça relève de l'approche historique, culturelle de ces problèmes-là. Ce qu'il faut constater et ce que je regrette dans votre réponse indignée à l'article de Algérie Actualité.
Indigné et légitime ?
Oui, je ne conteste pas la légitimité. Vous êtes touché par ça, je le comprends tout à fait. Je ne peux pas contester
cela. J'aimerais que nous soyons touchés.
Je suis touché par ce qui vous atteint, si vous voulez, mais j'aurais attendu de vous, étant donné justement votre expérience de l'aventure algérienne, et étant donné votre connaissance de ce qui s'est passé depuis 62 jusqu'à maintenant entre l'Algérie et la France, entre les intellectuels algériens et les intellectuels français, ou plutôt de ce qui ne s'est pas passé depuis, vous pouviez répondre sur un tout autre ton, sur un ton beaucoup plus constructif, parce que ce qu'il faut constater, c'est qu'il n'y a pas d'échange véritable sur ces questions-là. Non seulement entre les Algériens et les Français, mais plus généralement entre les Arabes et les Juifs.
Oui, je ne suis pas d'accord avec vous, si vous permettez que je prenne la parole si tôt, mais j'en ai une grande envie. Je ne prévoyais pas d'ailleurs que ce serait si facile de m'opposer à vous. je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que si vous vous abritez constamment dans la recherche, l'histoire et la culture, vous allez me faire croire que je ne suis pas votre interlocuteur privilégié. Et je crois qu'il ne faut pas mettre de frontières, mais qu'il faut mettre de frontières dans les genres, et non pas du tout dans les finalités ou dans les itinéraires. Autrement dit, de grands historiens, d'ailleurs Bernard Lewis en donne la preuve, Braudel en a donné une autre preuve, peuvent à l'occasion être polémistes et pamphlétaires lorsqu'ils sont attaqués par des polémistes et des pamphlétaires. La seconde observation, c'est que dans cette histoire, il n'y a pas exclusivité de réponse. Depuis 20 ans, je crois m'attacher, m'efforcer, je ne sais pas si j'ai réussi, à faire ce que vous demandez. Et donc, il y a temps pour tout, et je n'ai pas voulu en effet donner un caractère exhaustif, historique et culturel au procédé des échanges. Dernière remarque, qui n'est pas la moindre, je ne suis pas en accord avec vous. Il y a des façons d'échanger sur le plan historique, culturel, je dirais même psychologique, un certain nombre de débats. Ça a lieu. Je peux vous en citer plusieurs cas. Et je tiens à le faire. D'abord, il y a une revue qui s'appelle Études palestiniennes, qui est d'un haut niveau. Et pour ma part, je n'ai jamais senti en la lisant que j'étais personnellement interpellé ou que j'ai une rupture quelconque tenait place. La preuve, c'est que, invité à m'exprimer, j'ai accepté. Et qu'en octobre, paraîtra sous ma signature un article dans une revue que d'aucuns jugent compromettante, mais qui m'a gêné nullement par le principe, par l'universalité des recherches. Et où, entre juifs et arabes, il y a un véritable échange. D'autre part, il y a en ce moment plusieurs organismes à Paris même où ces échanges sont facilités en de haut niveau. Les juifs libéraux, certains cercles arabes qui m'invitent, des étudiants sont en train de les organiser et là il n'y a pas d'échange de ce genre puisque personne n'est attaqué dans son humanité, encore une fois comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors pour le moment, il faudrait circonscrire un débat et accepter de savoir quel est le sens, non pas de l'histoire là-dedans, j'en conviens, mais de la polémique. La polémique, ça traduit quelque chose.
Oui, je regrette encore une fois, je comprends très bien votre attitude parce que vous avez été directement mis en question, et cela je le regrette de la part des journalistes algériens qui l'ont fait, parce que le problème dépasse votre personne, et personnellement...
C'est évident, c'est ce que je voulais vous dire.
Oui, mais personnellement, je ne peux pas rester justement à ce niveau-là. Vous comprenez très bien que je veuille poser le problème dans toutes ses dimensions, absolument, au-delà de votre personne, et je ne pense pas que cette émission intéresserait les auditeurs si nous nous concentrions essentiellement sur le fait que vous avez été...
Monsieur Harkoun, je voulais à ce moment intervenir une toute petite minute pour dire que j'ai lu très attentivement ce dossier où Jean-Daniel est mis en cause, mais je dirais qu'il est mis en cause de manière assez marginale du point de vue quantitatif, parce que pour le reste, il est dit dans de très nombreux articles, au fond, il est dit la chose suivante, l'Holocauste... aujourd'hui est l'instrument de la puissance juive. Et les juifs se servent de l'Holocauste, vrai ou faux, car dans certains cas on dit que c'est pas tout à fait vrai, dans d'autres cas on dit que c'est vrai, mais ils se servent de l'Holocauste pour précisément asseoir leur hégémonie, pour augmenter leur puissance et pour faire chanter l'Occident. Et vous avez cité tout à l'heure Bernard Lewis, au fond il montre que une telle attitude n'est pas spécifique de l'Algérie, dont il ne parle pas beaucoup dans son livre. Il donne un certain nombre d'exemples, j'en cite quelques-uns en vrac. Il parle de ce cas en 1978 où l'Irak a protesté auprès du gouvernement polonais, ce qui est assez piquant, parce qu'il s'apprêtait à commémorer la prétendue insurrection du ghetto de Varsovie. Il cite aussi l'affaire de Ras Burka en Égypte. C'est ce gendarme égyptien qui, dans le Sinaï, a tué un certain nombre de touristes israéliens et qui a été traité en héros national par la presse marxiste, comme par la presse intégriste, en disant, où il était dit, par exemple, si tous les musulmans étaient comme lui, il y a longtemps qu'Israël n'existerait plus.
Oui. Donc, c'est justement ce que je voulais dire.
Vous à cela, qui dépasse le cadre.
Quand Jean-Daniel m'avait interrompu, c'est ce que je voulais dire. Même un intellectuel de l'envergure et un chercheur de l'envergure de Bernard Lewis s'attache à des détails comme ceux que... Des détails, car pour moi ce sont des détails comme ceux que vous venez de citer, quelle que soit par ailleurs leur importance, n'est-ce pas? Et refuse de poser les problèmes fondamentaux qui changeraient radicalement, justement, les attitudes de part et d'autre. Et je dirais de manière brutale, en ce qui concerne cette affaire d'Holocauste, de Barbie, etc., qui a provoqué tout ceci, pourquoi est-ce que les Algériens écrivent cela? Parce que chaque fois qu'il est question de ces problèmes, il y a un refus radical de poser un autre problème, que je ne veux nullement comparer en tragédie, à ce que nous appelons l'Holocauste. Mais enfin, il y a ce problème palestinien qui, pour les Arabes, est ressenti, je dirais, aussi douloureusement, à tort ou à raison, mais c'est un fait, ça existe.
Absolument.
Il faut le savoir.
Oui.
Et ressenti aussi douloureusement, aussi, de façon aussi intolérable, que les Juifs ressentent cette tragédie de l'Holocauste. Alors, ce qui manque, l'éclairage qui manque, supposez que vous auriez écrit une chose comme celle-là, je vous assure que les Algériens auraient été énormément, d'abord surpris peut-être, parce qu'ils ont de vous une image, à tort ou à raison, je ne prends pas parti sur l'image qu'ils ont de vous, mais ils ont de vous cette image, elle existe. Quand une image existe dans un imaginaire social, nous savons très bien qu'elle continue d'opérer. Et il s'agit de lutter contre ces images quand on sait qu'elles sont fausses pour justement les détruire. Comment les détruire ? Eh bien, en posant le problème dans toute son envergure et en parlant de la responsabilité d'Israël et non pas des Juifs, sur ce point je suis tout à fait d'accord avec vous, pour dire que les journalistes en question ont commis l'erreur, mais ça c'est peut-être un défaut de culture et un défaut de connaissance, de parler de Juifs et non pas d'Israéliens par exemple, car tous ces débats, toutes ces choses-là ont pris des dimensions intolérables depuis le phénomène d'Israël. Entre les Juifs et les Arabes. Alors, si on posait le problème dans cette dimension-là, les sensibilités seraient un peu plus ouvertes pour une meilleure compréhension des problèmes et pour surtout un dépassement historique. Car c'est cela qu'il faut faire, un dépassement historique de ces oppositions. Sans cela, nous aurons toujours des heurts de cette nature. Tant que, encore une fois, l'approche justement, j'y insiste, culturelle, l'approche, je dirais, intellectuelle, dans la perspective d'une lutte contre la défaite de la pensée qui est implicite à ces oppositions-là, tant que cela ne sera pas fait, nous aurons toujours des oppositions de ce type et nous perdrons du temps.
Bon, alors, c'est très important, et naturellement, enfin, pas naturellement, mais je vais vous dire pourquoi je suis en désaccord avec vous. Partiel, mais important. Il se trouve... Je vous donne acte d'abord d'une chose tout à fait évidente, que si ce débat était personnalisé, c'est-à-dire s'il s'agissait de me défendre, je ne serais pas là. Oui. Et je n'aurais même pas accepté la proposition d'Alain Figolco. Donc il n'est pas question de défendre ici, soit mon journal, soit moi-même. Cette question est générale, elle nous dépasse, et vous n'êtes pas ici pour me défendre, ni Alain Figolco, ni moi-même d'ailleurs. J'ai d'autres occasions et d'autres lieux pour le faire. Cela pour un débat. Cependant, force m'est de remarquer, et vous m'excuserez de citer un article de moi, c'est que 4 jours avant la publication de cet article à Alger, 4 jours avant, j'ai fait et j'ai indigné bien de ce que vous appelleriez les miens, et qu'en l'occurrence j'appelle aussi. J'ai fait un article sur 2 pages de l'Observateur qui vous contredisent, c'est-à-dire que j'ai au contraire déclarer premièrement que l'Holocauste ne pouvait pas être l'apanage de la mémoire juive. Deuxièmement, que l'idée que des centaines de millions d'arabo-musulmans puissent être exclus de cette mémoire, pour moi, m'était insupportable. Et que donc, s'il y avait à faire quelque chose, c'est de faire entrer l'arabo-islamisme dans cette mémoire collective, avec plusieurs critères, avec quelle volonté ? La volonté d'abord de ne pas être dans la séparation, la volonté aussi d'adopter un critère d'universalité pour juger de tous les autres holocaustes et de tous les autres humiliations, et que cet article, qui a suscité d'ailleurs des réactions et de l'ambassade d'Israël que nous avons publié, et de la communauté juive parmi mes meilleurs amis, était exactement ce que vous dites. Deuxième observation, l'image que j'ai... Non, excusez-moi, parce que quelquefois je perds le fil de ma pensée, n'étant pas autant que vous universitaire. D'ailleurs, je suis en train de la perdre. La seconde chose, c'est que contrairement à ce que vous dites, ça n'est pas mon image. Et là, peut-être que votre information est en défaut. La division des Algériens, de l'élite algérienne sur cet article, est nette, comme en témoignent les messages que j'ai reçus. Je vous apprends, excusez-moi, je parle de moi, mais vous m'en avez fait...
Non, je le sais.
Vous savez que le président Chadli m'a envoyé un message d'amitié et a insisté en me disant qu'il m'attendait pour les fêtes auquel je ne me rends
mais
pas,
ça, je
évidemment.
Le sais, Jean-Daniel.
Non, mais c'est pour vous dire que ce n'est pas cette image que j'ai. Et c'est que le cas précisément.
J'ai parlé de l'imaginaire social.
Mais l'imaginaire social, il se traduit dans l'élite. Et là, il ne s'est pas traduit, car le président de la Ligue des droits de l'homme algérien a pris parti pour l'Observateur et pour moi. L'ambassadeur Essid de la Ligue arabe est venu à SOS Racisme pour se démarquer de cette attitude de révolution algérienne. Enfin, l'ambassadeur d'Algérie m'a écrit, comme vous savez, puisque j'ai témoigné. Donc, contrairement à ce que vous dites, c'est pas au nom d'une image forgée par une ignorance des autres souffrances et au profit de l'Holocauste que l'article a été écrit, c'est par une volonté délibérée d'attaquer au contraire les plus proches dans la mesure où leur judaïsme, pourrait servir de caution et pourrait dédouaner, et je veux dire, un certain nombre d'attitudes juives qu'il déplore et qu'il condamne, et que j'ai condamné auparavant. Et que le cas est très particulier, il est même, je dirais, vicieux. Enfin, je veux vous dire, et là je vous ferai, j'espère que j'accéderai à votre désir, d'entrer dans l'histoire et dans ce qu'on appelle, disons, les échanges culturels. Moi, je n'ai jamais pensé que les souffrances, toutes les souffrances, ne servaient pas aux survivants, aux descendants, et surtout à ceux qui n'en ont pas souffert, d'écrans protecteurs, d'abris. Ça m'a souvent été pénible. J'en ai vu l'occasion tout le temps. À la libération, après la résistance, il y a eu les usurpateurs. Après cette révolution algérienne, que je n'ai pas tout à fait... j'ai pas tout à fait lutté contre, pour employer un euphémisme, il y a eu des profiteurs de la révolution algérienne, et on a parlé très souvent de l'arrogance algérienne derrière cette révolution. L'Holocauste a eu et a ses profiteurs, les gens qui font carrière, j'en ai jamais été. Les gens qui font carrière dans le judaïsme, pour moi, ça a toujours été une occasion de fuite. J'admets, sur un plan de Sirius, avec une échelle historique, j'admets l'existence des profiteurs de toutes les gloires ou de toutes les grandes souffrances. Il y a chez les Noirs des gens dont la justification sera de se souvenir tout le temps de la traite des Noirs et de l'esclavage. Il reste ensuite à savoir quelle est la stratégie de démystification.
Oui.
Qui elle sert,
voilà.
Et comment on s'en sert.
Voilà.
Et là, je trouve qu'un scandale est né parce qu'elle fait regresser ce que vous appeliez la pensée.
Voilà. Sur cette dernière question, je suis d'accord avec vous. Comment démystifier, justement, les utilisateurs de grands événements qui déchirent la conscience des hommes?
Parce qu'ils sont instrumentalisés à l'intérieur d'un camp et d'une passion.
Mais ça existe dans toutes les
et
sociétés.
Vous pensez que c'est vous pensez
que l'Holocauste est instrumentalisé de deux côtés? À ce niveau de l'interrogation, je suis avec vous. À ce niveau d'interrogation. Voilà pourquoi, je répète, tout ce que vous venez d'expliquer, je le sais. Tous les Algériens n'écriraient pas sur vous ce qui a été écrit. Je le sais, on vous connaît, on connaît votre engagement.
Alors,
seulement, il ne faut pas oublier, je le répète, que ce problème est vu dans la situation générale dont on ne peut pas faire abstraction. Si nous voulons véritablement poser ces problèmes-là dans leur dimension réelle.
Oui, mais est-ce que il n'y a pas une certaine manière, monsieur?
Vous ne pourrez jamais faire parler un arabe de l'Holocauste si en face, vous n'évoquez pas ce qui s'est passé dans la région du Proche-Orient.
Oui, mais excusez-moi, monsieur le modérateur.
Non,
mais
je ne parle pas de vous. Hein.
Non, on est d'accord. Mais non, c'est sur votre place. Oublions-moi maintenant. C'est fini pour Jean-Daniel. J'espère. Et je m'excuse d'ailleurs d'avoir occupé le terrain trop tôt, mais c'est moi qui ai été l'occasion. Mais de même que vous venez de dire ça, vous ne ferez jamais parler à des étrangers au problème arabo-palestinien, de ce problème arabo-palestinien, si, n'approfondissant pas l'Holocauste, au lieu de dire.
Ça, je suis d'accord avec vous.
Pas vous. Au lieu de dire ou bien il n'a pas existé, ou bien vous l'utilisez, disons, utilisons les critères de votre indignation contre l'Holocauste pour dénoncer les autres Holocaustes.
Oui, Jean-Daniel.
Mais il faut partir de là.
Mais ça, oui, tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que nous devons appeler d'un commun accord le désordre sémantique. Tant que nous sommes dans ce désordre, nous ne pourrons pas approcher ces problèmes dans cette perspective.
Un désordre sémantique traduit des inspirations particulières. Alors moi, je vais devenir plus politique, puisqu'après tout, c'est mon lot, comme c'est le vôtre d'être dans la recherche. Je crois m'apercevoir qu'en ce moment, et vous voyez, je dépasse de beaucoup le débat, qu'il y a dans le monde, pour régler le problème israélo-palestinien, deux forces, qui sont les forces de conservatisme de la guerre. L'État de ni guerre ni paix sié à beaucoup de puissance, à beaucoup d'individus, à beaucoup de stratèges, et il y a des forces de paix. Je veux dire que dans ces forces de paix, je place au premier rang en ce moment la gauche israélienne, une certaine gauche israélienne, dont il faut se souvenir qu'à l'occasion de Sabra et Shatila, elle a été la seule dans le monde entier à descendre dans la rue, alors que dans aucun pays arabe, il y a eu une foule pour protester contre Sabra et Shatila. Et le représentant de l'OLP à Paris,
le temps de discuter ce point avec vous.
Le représentant de l'OLP à Paris m'a dit que ça restait comme une blessure.
Oui.
Henri en même temps comme un signe, car c'est avec eux, dit-il, qu'un jour nous ferons et nous saurons faire la paix. Ça, c'est la première observation. Parmi les forces de guerre, il y a évidemment, ils font rien évidemment pour favoriser, de même que la guerre entre l'Irak et l'Iran, personne n'en veut vraiment la cessation. Mais sur le plan pratique de l'observation, qui tout de même est à la portée d'un homme de recherche et un professeur à la Sorbonne, vous savez bien que dans les trois dernières années, toutes les victimes palestiniennes de terrorisme ont été le lot des Palestiniens extrémistes eux-mêmes, c'est-à-dire que vous avez entre eux des forces de paix et des forces de guerre, et que je peux vous citer tous les noms des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui ont été abattus. Or, en ce moment, cette Algérie, au moins certains d'entre eux, dont j'ai toujours rêvé qu'elle devint un lieu de rapprochement pour aller alimenter, nourrir, conforter les forces de paix dans les deux camps, avec des articles comme cela, elle semble vouloir se placer. Certains d'entre eux.
Il ne faut pas dire l'Algérie.
Non, en tout cas,
il faut dire les journalistes qui ont écrit cet article.
J'aurais dit ça.
Parce que l'Algérie est vaste.
Je dis ça.
Dans l'Algérie, il y a toutes sortes de
forces. C'est quand même pas un espace de
pluralisme. En ce moment, c'est un espace de dualité. Ce n'est pas la même chose, mais ce qui fait qu'une rivalité entre deux journaux se fait dans un sens de surenchère. Mais c'est en fait que cette rivalité donne le sentiment, ou l'illusion peut-être, de liberté. Et c'est vrai qu'il y a une certaine liberté parce qu'il n'y a plus de doctrine à la tête de l'État, d'une doctrine de référence. Quand Boumediene était là, il fixait à la fois dans les termes, c'est-à-dire dans le code sémantique, comme vous diriez, et dans la doctrine quelque chose dont on ne pouvait pas s'écarter. Aujourd'hui, on peut s'en écarter, mais dans un seul sens. Et c'est cette forme, je veux dire, de cas.
Mais ce que vous êtes en train de dire est très important pour éclairer, justement. C'est un des éclairages, il y en a plusieurs, un des éclairages qui pourrait expliquer un certain nombre d'excès de cet article qui nous retient. Parce qu'il y a toutes les conditions de l'expression de l'opinion, non seulement en Algérie, mais dans le monde arabe d'une façon générale. Vous disiez qu'il n'y a pas eu de protestation à propos de Sabah et Shatila dans le monde arabe. Il y a à cela de très nombreuses raisons qui existent du côté arabe, pour lesquelles évidemment il n'y a pas question de faire entrer la question israélienne. C'est l'évolution interne des pays arabes eux-mêmes, et cette question mérite effectivement qu'on la considère. Mais il faut toujours revenir à ces forces de paix que vous venez d'évoquer. Ces forces de paix existent. Et nous réjouissons tous qu'elles existent, car on a trop souffert de cette histoire. Mais vous savez très bien les échecs qui sont faits à ces forces de paix, non seulement à l'intérieur d'Israël, mais comme le dit l'article de Bourbon, qui vous a indigné aussi, il y a quand même des constatations qui sont exactes. La force des juifs aux États-Unis, je m'excuse, je dis des juifs, je dirais plutôt.
Moi,
je suis historien des religions et je suis particulièrement attaché à la valeur spirituelle du judaïsme, en tant qu'il est lié sur le plan spirituel à l'islam. Je ne ferai jamais cette erreur. Et j'y tiens. Quand je parle des Israéliens, c'est autre chose que les juifs.
Et aux États-Unis, c'est la force de qui ?
Des Israéliens. Évidemment, des Israéliens. Et non pas des Juifs. Parce qu'en Israël, je connais des... aux États-Unis, je connais des Juifs, comme ailleurs dans le monde, qui sont des forces de paix, comme vous le dites. Et donc, à propos de cette affaire-là, ce que l'opinion arabe n'arrive pas à percer, c'est justement l'utilisation qui est faite de ce phénomène tragique et complexe par des forces qui sont perçues justement par les Arabes comme essentiellement des forces de manipulation et d'opposition à ces forces que vous évoquez et qui existent, et vous en faites partie, de celles qui veulent instaurer un ordre de paix au Moyen-Orient.
Je voudrais vous poser une question à tous deux, parce que vous semblez d'accord, me semble-t-il, pour admettre qu'au fond c'est la question palestinienne qui empêcherait aujourd'hui les Arabes ou le monde arabe d'assumer l'Holocauste, de le considérer comme sa propre blessure. Là-dessus, j'aimerais préciser un petit peu les choses. en versant une nouvelle pièce au dossier que je tire à la fois du livre d'Anna Arendt, Eichmann à Jérusalem, et du livre de Bernard Lewis, Sémites et antisémites. Et il nous faut revenir pour cela au mois de mai 1960, c'est-à-dire au moment de la capture d'Eichmann. À ce moment-là, Israël n'occupe pas la Cisjordanie, la question palestinienne n'est pas formulée comme telle, et à ce moment-là, beaucoup d'États arabes saluent en quelque sorte, non pas la capture d'Eichmann, mais Eichmann. Et voici le titre d'un quotidien saoudien que donne Bernard Lewis dans son livre, « Capture d'Eichmann, l'homme qui peut s'enorgueillir d'avoir tué 5 millions de juifs ». Nous sommes en 1960, il n'y a pas occupation, et il y a déjà ce type-là de propagande. Et là, il me semble que c'est quand même d'une... Enfin, voilà.
Je voudrais répondre. Écoutez, puisque vous citez Bernard Lewis, et son livre « Sémites et antisémites »,
ce n'est pas ce qu'il a écrit de mieux, je m'excuse.
Qui me paraît par instant discutable, mais il y a des éclairages assez fulgurants comme il en est capable, surtout par exemple le rapprochement entre l'étude entre le Coran et l'Évangile, ça m'a appris beaucoup de choses. Et je préférais l'avant-dernier qui était juif en terre d'islam. Mais enfin, il dit, moi personnellement, et alors par vécu, je lui donnerai acte de ceci, qui est une réponse assez direct à la question d'Alain Finkielkraut. C'est que, au départ d'Israël, la motivation, l'une des motivations du refus arabe, qui était à ce moment-là, et il suffit de changer le mot pour répondre à Alain Finkielkraut, la question n'est pas palestinienne n'est pas posée, mais la question arabe l'est. Et pourquoi la question arabe l'est,
je voulais lui dire.
La question, pourquoi elle l'est, Bernard Lewis en donne une des clés. C'est à l'intérieur d'une immense tolérance de l'islam et de l'arabo-islamisme, où les juifs, en plusieurs moments de leur histoire, en terre d'islam, ont été traités d'une manière mille fois, privilégiée par rapport au traitement qu'ils ont subi en chrétienté, il y a eu tout de même le statut de dimitude, c'est-à-dire de séparation, et c'est-à-dire qu'il y avait un statut spécial pour les non-musulmans. Dans l'esprit, d'ailleurs, de ces initiateurs juridiques, ce statut était un progrès, puisqu'il faisait une différence entre les chrétiens, les musulmans d'une part, et tous les infidèles de l'autre. La guerre sainte étant réservée aux infidèles, tandis que les chrétiens et les juifs étant protégés de cette guerre sainte par la protection de l'islam, du livre du monothéisme, de la religion, de l'inspiration commune, mosaïque commune. Mais au fur et à mesure de l'évolution des États, cette mesure qui était à l'origine une protection est devenue un statut d'infériorité. Et on peut dire, et ça je rejoins Bernard Lewis, qu'à l'origine du refus des États arabes d'accepter la décision de partage de l'ONU, qui trouvait injuste, il y avait l'idée que en terre arabo-islamique, et en terre d'islam, il n'était pas possible d'accepter une souveraineté qui ne fût pas musulmane. Personnellement, vous me contredirez, mais...
Bien sûr, je me révolte contre cela.
Bon, attendez, mais je termine, parce
et
que...
C'est un
peu
désaccord avec Bernard.
D'accord,
Louis.
Très bien.
Alors, sur le plan de l'histoire,
très bien,
sur le plan de...
Bien,
comment écrire l'histoire?
Si vous voulez, vous m'éclairerez juste après, mais dans une minute.
Oui, il nous reste 4 minutes, c'est ça.
Il nous reste 4 minutes, hélas.
Alors,
c'est maintenant que nous
terminons. Non, nous avons dit des choses très importantes.
Alors,
Daniel, terminé.
Pour moi, je veux dire que... Je suis en désaccord partiel avec Alain Finkielkraut en disant qu'à l'intérieur de cette infériorité imposée aux Juifs, je veux dire, en dehors, plutôt par l'intérieur de ce statut imposé, il est vrai que l'antisionisme devenu, comme dit Rodasson, un antisémitisme de combat dans le monde arabe contre la présence israélienne, a connu une expansion, une exaspération, une exacerbation particulière, et que c'est vrai qu'on peut lier à l'existence de l'État d'Israël, un succès assez prodigieux des thèses antisémites chrétiennes, et un accueil et une réceptivité de plus en plus grande, allant jusqu'à s'allier aux amis d'Israël, parce qu'ils étaient les amis d'Israël, et y compris avec les antisémites européens, l'Allemagne nazie, etc.
Oui,
Mohamed Harkoun.
Écoutez, ça, il y a beaucoup de choses à répondre, et malheureusement, on arrive à la fin de l'émission sur cette question de protéger, de démis que vous avez évoqué, et sur laquelle on écrit tant de choses, vous le savez. Voilà un cas qui illustre mon introduction du début. Un cas où il faut être historien.
Vous l'êtes ?
Oui.
Alors, éclairez-moi.
Oui, mais lorsqu'il écrit ces choses-là, il les écrit en projetant sur un passé médiéval des idées qui sont des idées de notre temps. En faisant, en quelque sorte, le reproche implicite, il ne l'écrit pas, mais il y a le reproche implicite que cette division ait existé. Mais nous sommes au Moyen-Âge.
Non,
ce statut a
été perpétué.
C'est perpétué, bien sûr, jusqu'au 19e siècle.
Je ne pense pas qu'il faille ce reproche. Il dit simplement qu'en créant un État souverain, les Juifs ont en quelque sorte manqué à leur stéréotype. Ils avaient une place humble dans le monde arabe et tout d'un coup, ils créent un État, ils étaient forts. Et c'est cela qui a rendu, dit-il, les Arabes accueillants aux thèses de l'antisémitisme et aux thèses de la puissance juive, à l'idée d'une omnipotence des Juifs.
Vous employez le terme antisémitisme. Vous avez vécu comme moi en Algérie, nous avons grandi dans la même atmosphère et vous savez très bien qu'il n'était pas question entre nous d'antisémitisme.
Mais maintenant,
il en a été question.
Maintenant, il existe un antisémitisme de type politique, exclusivement politique, qui est justement généré par le phénomène d'Israël et de la Palestine. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et ne pas du tout confondre cet antisémitisme, voilà pourquoi je rejette le mot. Je ne veux pas qu'on applique le mot, et le tort des journalistes en question, c'est de l'avoir utilisé.
Non, ils font cette distinction pour les sémites, puisque ça se termine par « nous sommes sémites comme vous ». Ça ne veut pas dire grand-chose, « nous sommes sémites comme vous », Bernard Lewis le dit très bien.
Oui, ça ne veut pas dire grand-chose si ça ne s'appuie pas sur une culture, si ça ne s'appuie pas sur une connaissance. Oui. Lorsqu'on connaît le judaïsme, l'histoire de la pensée juive, comme je la connais par exemple, et comme d'autres la connaissent.
Probablement mieux que moi.
Bon, à ce moment-là, on ne peut plus faire ces confusions-là. Et c'est donc bien un problème de culture politique d'une part, et de culture historique d'autre part, et également religieuse. Car il y a des enjeux religieux dans tout cela, que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer. Ouais. Et il y a des enjeux formidables, qu'il ne faut absolument pas réduire, et c'est ça, je terminerai par où j'ai commencé. Il faut absolument ouvrir un débat, et vous devez l'ouvrir dans le Nouvel Observatoire.
Nous ne faisons que ça.
Vous ne faites que ça, mais ça retombe toujours...
On vous y a invité, d'ailleurs.
Oui, je sais. Mmh. Ça retombe toujours à un niveau, je m'excuse, que je qualifierais sans du tout...
Amalgamé,
de journalistique par rapport à ce qui est demandé, justement, par les événements que nous sommes en train de vivre.
C'est terminé. Notre effort était précisément de continuer ce débat, mais j'espère avoir l'occasion de vous réinviter l'un et l'autre pour continuer à en discuter. Je voulais vous remercier et à la semaine prochaine.